Bonjour et bienvenue à ce 47e épisode des Gestionnaires en action. Ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Luc Girard, gestionnaire de portefeuille chez Noël Girard Lehoux Valeurs Mobilières Desjardins. Monsieur Girard, bonjour.
Bonjour Monsieur Lalonde.
On parle aujourd'hui du Standard & Poor's 500 qui est revenu cette semaine à son sommet historique d'avant la pandémie de COVID-19. Le Standard & Poor's 500 qui a ainsi imité le Nasdaq qui a fait la même chose il y a quelques semaines. Comment se fait-il que la bourse ait récupéré aussi rapidement alors que la pandémie de COVID-19 est encore loin d'être finie?
Écoutez, le S&P 500 est effectivement de retour à son sommet en majeure partie dû à une surperformance d'une très petite quantité de titres. Après analyse du rendement de l'indice, nous sommes à même de constater que seulement 23 compagnies des 500 se transigent à leur sommet, alors que la moyenne des composantes du S&P se retrouve à 24,8% de leur sommet. Pire encore, nous constatons que 115 titres sur 500 se retrouvent à 50% de leur sommet. Le S&P 500 fait définitivement cavalier seul à cause de sa forte pondération en technologie et en santé qui représente plus de 40% de l'indice et qui ont littéralement transporté l'indice à son sommet. Ce n'est pas vrai que tous les autres indices qu'on a actuellement à travers le monde, qu'on vit la même chose. À preuve, le CAC 40 qui est à Paris est en baisse ou est plutôt à 18% de son sommet. Le FTSE 100 de Londres est à 19% de son sommet et le Hang Seng de Hong Kong est à 13% de son sommet. Les deux indices qui se rapprochent le plus là, du S&P 500 sont le TSX, donc Toronto à -8, et vous avez le DAX Francfort qui est à 6% de son sommet.
Donc, si je vous comprends bien, là, depuis le début de la pandémie, vous venez de parler des titres techno et des titres de soins de santé. On pourrait aussi ajouter certains titres de consommation discrétionnaire qui ont bien fait. Mais c'est donc dire que la croissance future des indices va devoir venir d'ailleurs. Est-ce qu'on peut anticiper une rotation sectorielle des investissements dans les prochains mois?
Bien, il est certain qu'avec la très bonne tenue des secteurs de la technologie et de la santé, ajouté à un retour progressif de l'économie, il est effectivement à prévoir qu'on va avoir une rotation sectorielle dans les prochains mois. On peut dès lors anticiper qu'il va y avoir prise de profit dans les secteurs de la technologie et de la santé. Puis la liquidité va être redéployée vers des secteurs beaucoup plus cycliques. On pense entre autres au secteur industriel, à la consommation discrétionnaire et même les ressources naturelles.
Selon un article de Reuters, on serait maintenant sorti du plus court marché baissier de l'histoire du Standard & Poor's 500. L'article parle maintenant d'un « bear market », entre guillemets, donc un marché baissier de 33 jours, soit du 19 février au 23 mars, alors qu'en analysant tous les marchés baissiers depuis 1920, on parle d'une médiane de 302 jours là, par marché baissier. Est-ce un rebond stimulé artificiellement par les grandes banques centrales et leurs programmes pour venir en aide à l'économie?
Mais c'est certain que, bon, tout le monde le sait, les marchés boursiers, ce sont des indicateurs précurseurs. Ils sont dans l'anticipation et n'aiment pas l'incertitude. Alors, le marché baissier a été, oui, de courte durée parce que les banques centrales ont martelé la planète qu'elles allaient être présentes et aussi participantes, et ce pour un bon bout de temps encore. Comment on fait ça? Bon, on y va d'injections massives de liquidités. Alors donc, toutes les banques centrales se sentent interpellées, ils sont préoccupés, si bien qu'ils vont utiliser à peu près tous les outils qui sont à leur portée pour soutenir et repartir l'économie.
Et avec le rebond des indices américains, notamment le Standard & Poor's et le Nasdaq, qui semblent nous dire, là, nous envoyer le signal que la pandémie de COVID-19 sera bientôt du passé pour nous. Doit-on craindre quand même les effets d'une possible deuxième vague de cas de COVID-19 cet automne sur la bourse américaine?
Rien n'est encore gagné. C'est le message qu'il faut lancer. Le COVID rôde toujours. Il se prépare à frapper avec sa deuxième vague. Donc, ça veut dire qu'en attendant le vaccin, les investisseurs doivent demeurer prudents. Les règles de base d'investissement sont plus que jamais importantes à se rappeler. Restez diversifiés. Revenez à vos cibles, prenez des profits. On ne s'appauvrit jamais en prenant des profits. Ne tentez pas le coup de circuit, puis surtout, ne dérogez pas de votre profil.
Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de se préparer au pire. Et là, j'envoie tout de suite un message là, aux anti-masques là, et aux conspirationnistes. Si on se prépare au pire, ça ne veut pas dire que le pire va survenir, mais ça veut dire quand même qu'on peut s'y préparer sans mettre en danger son portefeuille.
Définitivement.
Dans ce contexte-là de fort rebond, qu'on pourrait qualifier de rebond en V de la bourse américaine, si on se positionne maintenant au Canada, à quoi on peut s'attendre de la bourse canadienne au cours des prochains mois?
Le Canada continue à bien se relever de cette première vague, mais là aussi, rien n'est gagné. Le Canada fait face à plusieurs vents de face. Le premier, bien, c'est comment le consommateur va réagir avec la fin de la PCU. C'est sûr que ça va influencer la consommation et donc, bien évidemment, le PIB. La deuxième chose, c'est le prolongement du taux directeur qui est très, très bas. Donc, ce taux directeur qui va rester très bas encore pour un bon bout de temps, ça va mettre encore plus de pression sur l'endettement des Canadiens, déjà très élevé, qui va, lui aussi, va avoir une implication négative sur la consommation. Pourquoi je dis ça, que ça va avoir une pression sur l'endettement? C'est que ça va inciter encore plus de Canadiens à s'endetter pour acheter des maisons. Alors, donc, l'endettement qui va continuer à grandir. Et le troisième point, bien, c'est la cyclicalité de nos entreprises qui fait en sorte qu'on a encore beaucoup de capacités excédentaires. Est-ce que les compagnies vont être en mesure de les éliminer à temps? Alors ça, c'est la grande question. Alors actuellement, j'opterais pour une légère sous-pondération du Canada par rapport à sa cible géographique.
Merci beaucoup, M. Girard.
Merci à vous.